Europe 1. Sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, ou plutôt aujourd'hui, exceptionnellement, dans Scientifiquement vôtre. La rigueur scientifique de Jamy et Fred, le sex appeal des frères Bogdanov, Stéphane Bern et moi sommes très heureux de vous retrouver. Pas vrai, Grishka? Stéphane, pas vrai?
Bien sûr, Igor.
Toujours un plaisir de raconter
l'histoire. L'accent arrive en bonus en plus.
Toujours un plaisir de raconter l'histoire sans se la raconter autour de trois personnages différents, mais unis par un seul point commun. Au moins, en tout cas. Aujourd'hui, oui, nos trois personnages ont vraiment la science infuse. Celui qui est tombé dans les pommes, à moins que ce ne soit la pomme qui soit tombée en premier, je vous raconte le physicien, mathématicien, homme de science Isaac Newton, qui a défini la loi de la gravitation universelle. Puis Émilie du Châtelet, l'amoureuse de Voltaire, qu'il avait surnommée Madame Pompon Newton en référence à sa coquetterie et son génie. Génie des mathématiques, elle reste aussi tout simplement la première grande mathématicienne et physicienne française. Quant à vous, Mathieu, vous brosserez le portrait d'un journaliste scientifique qu'on adore et qui nous fait le bonheur d'être avec nous tout l'après-midi. C'est bonjour, d'abord, Jamy Gourmaud.
Bonjour,
c'est bien
Stéphane.
D'être bien poli comme ça, Stéphane. Jamy, on vous reçoit d'abord parce qu'on vous aime, hein, on va dire ce qui est, mais aussi à l'occasion de votre nouvelle émission quotidienne, C'est Jamy, diffusée sur France 5 à partir de lundi. Le titre de l'émission, c'est le fruit d'une longue réflexion, j'imagine. Sacré brainstorm, hein. C'est Jamy.
Énorme.
C'est beau. Mais au moins, c'est très France 5, hein, c'est, qui décline son C un peu partout. Ça sera, on va en parler hein, durant cette émission, mais est-ce que l'esprit C'est pas sorcier toujours là?
Alors oui, l'esprit, c'est pas sorcier, parce que je crois que cet esprit-là, c'était celui de Fred, c'était le mien, donc c'est une façon d'aborder les choses à travers le prisme de la connaissance, tout simplement.
Mmh. Ah ben la connaissance, eux, ils en ont. Hein. Ah, oui. Vous savez, la science, Jamy, c'est un travail d'équipe. Je vous présente notre équipe. Trois esprits éminemment scientifiques.
Et surtout, quand on parle d'esprit éminemment scientifique, surtout Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je voudrais que tu me fasses l'opération, je sais pas faire, moi.
Une règle de trois.
Oui, c'est une règle de trois, mais c'est précisément ce que je ne sais pas faire.
Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach, vous êtes la femme de la situation aujourd'hui.
Oui, elle nous entraîne comme tous les jours dans l'intimité des grandes ce monde. Et aujourd'hui, alors, de qui allez-vous nous parler?
Eh bien, est-ce que Pic de la Mirandole vous dit quelque chose? Jean Pic de la Mirandole, humaniste et philosophe italien, qui est entré dans l'histoire comme le symbole d'un savoir sans limite. Et selon les mots de Voltaire, et Voltaire était pourtant pas le genre d'homme à distribuer des compliments impunément, Pic de la Mirandole, cet homme prodigieux, c'était l'homme qui savait tout et même un peu plus.
Jamy, c'est un peu le fils spirituel de Pic de la Mirandole, mais il faut le dire. Avec nous également David Castello-Lopez. Alors, je vous présente, Jamy, je vous explique ce que fait David.
Mais c'est chaque pas jour, facile à comprendre ce qu'il fait.
Chaque jour, il nous raconte l'origine de quelque chose de notre vie quotidienne. Ça peut être l'amiante, ça peut être le béton, ça peut être le téléphone portable.
Il a vraiment fait l'amiante.
Tout, et il fait tout. Et alors aujourd'hui, c'est quoi?
Et cette fois-ci, c'est le bruit, vous savez, quand à Paris, il y a un pass quand on est abonné au métro, qui s'appelle le pass Navigo, et quand vous rentrez dans le métro, ça fait un bruit. Oui. Et moi, je me suis intéressé, mais qui l'a fait ce bruit? Et voilà, et on verra ça ensemble. Et
c'est pas la machine toute seule.
Le pire, c'est que ça se trouve, c'est lui qui a fait ce bruit parce qu'il est aussi designer sonore. Il avait travaillé pour la SNCF à une époque. Lui nous raconte chaque jour une histoire d'une recette, mon cher Stéphane. Mais c'est le moment qu'on préfère dans l'émission,
bien
le moment
sûr,
le plus
d'abord,
gourmand.
C'est gourmand. En plus, c'est des recettes, si vous voulez, de nos régions. Et là, en l'occurrence, Olivier Pouls, vous avez choisi une recette. Et
oui, je me suis penché sur les origines de Jamy, la Vendée, je crois.
Oui,
et donc, je vais vous raconter l'histoire et je vais vous donner la recette, évidemment, de la célèbre brioche vendéenne. Et puis, comme je sens, les amis, que vous commencez à avoir l'estomac qui gargouille, tout à l'heure, je vous en apporterai une petite de brioche, tiens.
Super. Alors ça m'intéresse parce que moi, j'ai vu mes grands-mères faire de la brioche, mon papa faire de la brioche, et il y avait tout un tas de coutumes autour de cette brioche qu'on consommait en général plutôt à Pâques.
Oui, exactement.
Eh bien, nous allons déguster tout à l'heure cette délicieuse brioche sous l'œil de Jamy qui pourra... Stéphane, ne vous dévalorisez pas. Vous savez, ce régime Weight Watchers que vous suivez porte ses fruits.
Oui.
Je pense que vous avez perdu déjà un peu.
Oui, oui, bon, 200 grammes. Au moins 200 grammes.
Enfin, cher Jamy.
Il y a le quiz.
Évidemment, vous serez peut-être la planche de salut de Stéphane Bern ou son nouveau pire ennemi, puisque vous allez l'affronter dans la cruelle épreuve du quiz. Quiz qu'on a appelé Bern to be alive. Spécial science, évidemment, aujourd'hui. Et là, je crois d'ores et déjà pouvoir annoncer que Stéphane est encore moins doué en science qu'en égyptologie, ce qui n'est pas peu dire. Mais tout de suite, Est-ce que vous aimez les pommes, Jamy ?
Oui, j'adore les pommes.
Alors découvrons ensemble notre premier personnage à la science infuse. Stéphane Bern nous raconte Isaac Newton.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Si on s'en réfère, Mathieu, au calendrier julien qui était en vigueur à sa naissance en 1642 en Angleterre, Isaac Newton est né le jour de Noël, ou en janvier dans le nôtre, le calendrier grégorien. Quoi qu'il en soit, dès le départ, la vie ne lui fait pas de cadeau. Non seulement son père est mort depuis 3 ans lorsqu'il voit le jour, mais Isaac est un enfant chétif.
Depuis 3 mois, parce que si son père est mort depuis 3 ans, c'est pas son père. C'est-à-dire que c'est peut-être le postier, ou le jardinier, ou quelqu'un d'autre. Mais 3 ans, ça, c'est vraiment une histoire terrible. Cosette à côté, c'est rien, quoi. Là, c'est vraiment, on tape très haut dans l'horreur.
Non.
Oui, ça fait donc 3 mois qu'il est mort, le papa.
Non seulement son père est mort depuis 3 mois, lorsqu'il voit le jour, mais Isaac est un enfant chétif, si fragile que tout le monde est convaincu qu'il ne fera malheureusement pas long feu. Il est très vite confié à son oncle qui comprend que Newton n'est pas fait pour les travaux de force. Isaac se retrouve à l'école où son intelligence et son habileté manuelle hors du commun ne lui valent pas que des amis. Il faut reconnaître que l'élève Newton n'est pas un gamin facile. Il est réservé, pensif, silencieux, mais il est aussi capable de piquer des colères épiques lorsqu'il est contrarié. En juillet 1661, Newton a 19 ans et ses talents le mènent à Cambridge, où il débarque avec une bouteille d'encre, un cahier, un pot de chambre et quelques bougies. Les premières années ne sont pas très heureuses pour vivre. Newton doit accumuler les basses besognes en vidant, par exemple, les pots de chambre de ses camarades plus riches. Dans les archives rigolotes de cette époque, on en a retrouvé une que j'apprécie tout particulièrement, celle où il dresse à 20 ans la liste de ses péchés. Il y en a d'horribles, hein. Il avoue par exemple souhaiter la mort de sa mère. Mais il y en a d'autres comme « J'ai mangé une pomme dans la maison du Seigneur ». Oui, déjà une sorte de pomme. Ou « J'ai eu des actes et des pensées malpropres ». Ce que je vous laisserai traduire, Mathieu. Et son péché dont on ne sait pas s'il en a été pardonné, « J'ai traité Dorothy Rose de salope ». Je n'ai aucune idée de qui était cette Dorothy Rose, mais ses pensées malpropres de Newton ne l'empêchent en tout cas pas de progresser à vive allure. En quelques mois, lui qui ne connaît des sciences uniquement ce qu'il a lu d'Aristote, assimile tous les progrès des mathématiques et des sciences naturelles du XVIIe siècle. En 1665, Londres est frappée par une terrible épidémie de peste. Newton est contraint de se réfugier loin de la ville et retourne donc chez sa mère. Celui-là même dont il rêvait qu'elle meure. Il a 23 ans et la différence entre lui et vous, Mathieu, c'est qu'il arrive à faire quelque chose de son confinement, lui.
Mais j'ai fait des ateliers de pâte à sel.
Oui,
c'était pas réussi.
Bah d'accord, lui il bricole, il lit, il a des pensées malpropres et il écrit. Mais surtout, il réfléchit. Newton imagine le télescope à deux miroirs, dit télescope newtonien. Il a été appelé, comme ça plus tard, vous vous en doutez, et travaille sur les prémices d'une œuvre qui va révolutionner les mathématiques et la physique. Newton pose les bases de sa théorie sur la composition de la lumière, échafaude une série de lois sur l'optique, travaille sur le calcul intégral et différentiel. Bref, il a déjà les intuitions qui vont devenir les 3 grandes lois du mouvement et il commence à travailler sur la loi de la gravitation universelle. Et c'est là que l'on retrouve la fameuse pomme. Il y a tellement de versions de cette histoire que nous aurions de quoi nous faire 3 kilos de compote. Mais alors déjà, comme on disait dans C'est pas sorcier, la loi de gravitation universelle, c'est quoi ?
Jamy, c'est quoi la loi de la gravitation universelle ? Vous le savez ?
Ah ben oui, la loi de la gravitation universelle. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'en parle la semaine prochaine dans cette nouvelle émission.
Dans la nouvelle émission, c'est Jamy sur France 5.
La loi de la gravitation universelle, ben, on peut dire que c'est une partie de la grande œuvre de Newton. C'est cette loi qui définit l'organisation finalement de l'univers. Si je la résume, ben, dans l'univers, tous les corps s'attirent. La Terre attire la pomme, c'est pour ça qu'elle tombe, mais la pomme attire aussi un peu la Terre. Et donc, cette force, eh bien, entre les corps est d'autant plus forte que les objets sont massifs et elle va diminuer en fonction de l'éloignement de ses corps. Voilà. Et cette règle, elle est hyper importante parce que elle va totalement réorganiser l'univers. À ce moment-là, on a avec Newton la proposition d'un univers qui fonctionne comme une horloge.
Ah, il a tout à fait raison. C'est toujours bien expliqué, vous voyez, quand c'est pas sorcier, enfin c'est jamais quoi. La loi de la gravitation universelle établit que tous les objets s'attirent les uns les autres, quelle que soit leur taille. Si la pomme tombe sur le sol, c'est parce que la Terre l'attire. Mais le génie de Newton, c'est de comprendre que la pomme aussi attire la Terre, même si c'est avec une force tellement faible que notre œil ne peut pas le percevoir. D'après Voltaire, lorsqu'on lui demandait comment il avait eu cette idée, Newton répondait « en y pensant sans arrêt ». L'autre version la plus connue, on la doit à un ami de Newton, l'antiquaire anglais William Stukeley, qui deviendra son biographe. Et Stukeley écrit ceci. « Après dîner, nous sortîmes boire le thé sous l'ombre de pommiers. Il me dit qu'il était dans la situation où il se trouvait quand lui était venue la notion de gravitation. Elle fut causée par la chute d'une pomme alors qu'il était assis. Pourquoi la pomme tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol, s'était-il demandé ? Tout ça ne change pas grand-chose. Ses travaux de recherche rendent rapidement Newton célèbre. Et il déclenche aussi sa part de controverse, d'autant qu'il est toujours aussi désagréable dès qu'on le contredit. Et ils sont nombreux dans le camp des cartésiens de ne pas être d'accord avec lui. Beaucoup ont du mal à admettre la loi de gravitation, qu'ils trouvent un peu trop magique à leur goût. Une force invisible qui agit à distance dans le vide, qui prétend tout expliquer, tout prédire, depuis les marées jusqu'au mouvement des planètes ou la chute des météorites. Ça leur paraît un peu gros. Mais voilà, année après année, les idées de Newton sont confirmées. Véritable légende vivante, il monte à toute allure dans l'échelle sociale. Professeur à Cambridge, membre, puis président de la Royal Society. Il est même anobli par la reine Anne en 1705. Pas tellement pour son travail de scientifique, mais plutôt pour son rôle de Master of the Mint, maître de la monnaie, l'institution qui frappe les pièces qui circulent dans le royaume. Newton gagne au passage un blason original. De sable à deux eaux de mort d'argent sautoir. C'est les termes héraldiques. Autrement dit, plus simplement, deux os blancs qui se croisent sur un fond noir. Rien à voir avec les pirates.
Oui,
il s'agit là plutôt de deux os de mouton. Une référence à ses origines familiales. Mais cela dit, ces armoiries un peu étonnantes évoquent aussi un aspect moins connu de Newton. L'amoureux des calculs exacts et des faits objectifs. Un peu comme la lune a une face cachée, Newton a une face obscure. À sa mort en 1727, à 87 ans, Newton est une légende vivante. Pour ne pas abîmer cette légende, les biographes vont avoir tendance à oublier ce qui peut éclabousser son héritage. Et puis voilà qu'en 1936, sont réunis pour une vente aux enchères toute une série de documents dont beaucoup viennent d'une malle longtemps oubliée. Et les archives viennent confirmer ce que certains savaient déjà. À savoir qu'à partir de 22 ou 23 ans, pendant une bonne trentaine d'années, Newton a pratiqué l'alchimie. Jusqu'en 1696, date à laquelle son laboratoire a explosé. Ce qui a tendance, il est vrai, à vous refroidir un petit peu. Au moment où il enseignait à Cambridge, Newton a probablement fait partie d'un cercle secret d'alchimistes. Et il avait en tout cas trouvé un faux nom pour ses recherches. Jehovah Sanctus Unus. Jéhovah Saint-Unique en français, mais surtout l'anagramme d'Isaac Newtonus, son nom en latin. Vu d'aujourd'hui, l'alchimie est une discipline qui sent un peu le fagot, le soufre et la sorcellerie. Mais Newton ne s'intéresse évidemment pas à l'alchimie pour transformer le plomb en or. Non, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'alchimie a une image encore ambiguë chez les savants. Ils commencent à s'en distinguer pour poser les bases de la chimie moderne, mais ils y trouvent encore un intérêt pour expliquer les transformations de la matière. Il faut être clair, il n'est pas question de faire de Newton un sorcier déguisé en scientifique, mais cela montre en revanche ce qu'est un savant à son époque, à la charnière entre le savoir comme on le conçoit encore au début des Lumières. Et alors qu'on a parfois tendance à considérer que les sciences et la religion ne sont pas forcément compatibles, Newton ne voit aucune contradiction entre les deux. Newton s'est passionné tout à la fois pour les mathématiques et la physique, mais aussi pour l'alchimie, le mysticisme, la théologie. En 2012, une autre archive l'a montré. Dans le cadre du Newton Project, un travail international qui vise à numériser des milliers de pages signées Isaac Newton, les chercheurs ont retrouvé un texte dans lequel Newton a savamment calculé la fin du monde en partant de la Bible et du sacre de l'empereur Charlemagne en l'an 800. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que d'après Newton, l'apocalypse, c'est pour 2060.
Aïe.
La bonne, c'est que cet épisode montre une fois de plus à quel point Newton est vraiment à la lisière entre deux mondes et de deux manières de penser le monde. L'ancienne, la médiévale, et la moderne, méthodique et rationnelle, qu'il a largement contribué à faire naître.
Europe 1, historiquement vôtre.
On parle de Newton et nous sommes cet après-midi en compagnie de Jamie, le Newton du service public, on peut le dire, un homme prêt à tenter toutes les expériences, même celles complètement folles, de nous accompagner durant toute cette émission, Stéphane.
Absolument, Mathieu. Alors, Jamie, Newton fait partie des scientifiques les plus célèbres. Il est un nom que l'on connaît, évidemment. Mais c'est parfois un peu difficile de dire vraiment ce qu'il a fait. Est-ce que pour vous, un personnage comme celui-là, d'abord, est-ce que vous le connaissez bien? Ou est-ce que chaque fois, vous, au fur et à mesure de ce qui est publié, vous en apprenez davantage sur lui?
Bah, j'en apprends à chaque fois un peu plus sur le personnage, tout simplement parce que on découvre l'ampleur de ses travaux, on continue à découvrir. Alors évidemment, c'est l'un des personnages de science les plus influents de l'histoire, on le disait il y a quelques instants. Il a permis à un moment donné à l'univers, au monde, de sortir de la métaphysique et d'entrer dans un monde organisé autour des mathématiques.
Un monde explicable surtout.
Et un monde explicable, c'est-à-dire que il va fournir une explication rationnelle, mathématique du fonctionnement de notre univers.
Ouais, et ça, on en a besoin.
Et ça va tout aussi bien du balai des planètes autour du Soleil ou autour des autres astres que de la chute de cette fameuse pomme ou d'un stylo qui tombe par terre. Et ça, c'est complètement fou. Ce que je trouve très très intéressant, et c'est ce que vous évoquiez finalement à travers ce portrait, c'est que on a aujourd'hui, nous, du mal à se replacer dans le contexte de l'époque. Et ça, c'est toujours hyper, hyper important. De se dire comment on vit, comment on appréhende le monde à cette époque. Et c'est dingue de se dire qu'à l'époque, la théorie la plus en vigueur, finalement, c'était celle de Descartes. C'est pour ça qu'il y a eu cette opposition entre les Newtoniens et puis Descartes. Descartes, lui, imaginait à l'époque que les planètes baignaient dans une espèce de fluide, un fluide qui tournait, et c'est ce fluide qui entraînait les planètes. Alors, oui, c'était une belle image, mais Newton n'y croit pas du tout. Et Newton est d'abord un mathématicien, et il veut des équations, il veut mettre, justement, ce savoir, cette connaissance en équation. Et c'est là où les mathématiques sont géniales, parce qu'à un moment donné, les mathématiques vont permettre de mettre en forme, finalement, l'idée qu'il a du fonctionnement de l'univers.
Newton était un pionnier, indéniablement, mais vous en êtes un autre, Jamie. Vous êtes un autre parce que depuis C'est pas sorcier, mais non, mais c'est vrai que moi je regarde C'est pas sorcier encore, les rediffusions et les nouvelles émissions, je vais regarder C'est Jamie aussi avec mon fils. Ça paraît simple, mais c'est compliqué de faire simple, d'expliquer des choses comme la loi de la gravitation. C'est quand même une force, c'est alors, étonnant. Quand avez-vous eu l'idée que votre vie professionnelle serait construite autour de cette idée de vulgarisation scientifique, qui est quand même très difficile à faire?
Alors, je pense pas que ce soit très très compliqué, parce que j'y prends beaucoup de plaisir. Si je vous disais, oh là là, c'est hyper dur, vous diriez, mais
si vous vit le martyr, ce garçon. Non. Pour expliquer, c'est compliqué quand même.
À partir de l'instant où on se penche sur une question, et qu'on essaie de la comprendre, on a envie de la conceptualiser, d'avoir des images dans la tête pour comprendre ce qui se passe. Et je peux vous promettre que je ne suis pas scientifique. J'ai une formation littéraire. Donc, je me suis posé des questions.
C'est un peu comme moi l'histoire, vous voyez. De base. C'est un passionné de science.
Ah là, je comprends
qui
mieux.
Se plonge et qui arrive à raconter. Ce qui est formidable aussi sur votre chaîne YouTube, c'est quand dans Épicurieux, vous dites d'où vient le vent, pourquoi il y a des trous dans le fromage, pourquoi l'oignon fait-il pleurer.
C'est vrai.
Mais c'est vrai, c'est des choses basiques et ça marche bien, vos petites vidéos.
Absolument.
Parce que vous expliquez les choses comme un journaliste et pas comme un scientifique qui a un jargon, qui a un langage à soi et qui est tout à fait difficile.
Parfois, il faut se détacher, parce que là, vous parlez pourquoi est-ce qu'on pleure avec les oignons. Ça, on comprend qu'on puisse expliquer assez simplement. Mais quand on parle de théories complexes qui ont fait l'objet de thèses, parfois dans des jargons scientifiques, les simplifier, ça devient très compliqué.
Ce qui est intéressant, moi, là où je vous le dis, je m'éclate, c'est quand justement, j'arrive à comprendre un phénomène, je le conceptualise, et puis, j'aime pas garder ça pour moi. Mais ça, c'est ce qui me caractérise
sûr, tous.
On aime partager, on aime transmettre. Ouais. Et bien, à partir de là, j'ai envie que ceux qui me regardent, qui m'écoutent ou qui me lisent, retrouvent le même plaisir que celui que j'ai eu à comprendre. Alors là, on commence à chercher les mots, les images, pour pouvoir raconter
Une belle histoire, mais une histoire juste. Jamy Gourmaud, c'est Jamy, c'est le titre de votre nouvelle émission quotidienne qui sera diffusée à partir de lundi à 17h sur France 5. Est-ce que c'est facile de trouver de nouveaux sujets? Ça doit être un peu le truc le plus dur pour vous, c'est de vous renouveler, parce qu'il y a eu quand même 20 ans de C'est pas sorcier. Donc, des thématiques scientifiques, vous avez déjà balayé l'ensemble du spectre. Comment
se
renouveler?
Je vous promets que, vous voyez dans la besace là, qui est posée juste
Montrez-moi.
À côté, là, il y a une besace.
Ah oui, effectivement, il y a une besace.
Voilà, et dans cette besace, il y a un ordinateur, et dedans, j'ai une foule de sujets nouveaux. Nouveaux tout simplement parce que C'est Jamy, ce n'est pas qu'une émission de science, hein, entendons-nous bien, c'est une émission de connaissances. Donc, on va y parler bien sûr un peu de science, mais on va y parler d'histoire, de géographie, de littérature, de tous les sujets qui traînent un petit peu dans l'air du temps. C'est pas une émission d'actualité au sens propre du terme.
Mais on rebondit sur l'actualité
Rebondit sur l'actualité pour éclairer, exactement. C'est une très bonne définition, je vais la garder.
Vous gardez-la dans le dossier de presse, je vous en fais cadeau.
Pour revenir à Newton, je l'ai dit dans mon portrait, Voltaire prétend que Newton aurait découvert la loi de l'attraction universelle en y pensant sans arrêt. Il faut quoi pour être un bon scientifique, Jamy? Il faut de l'obstination, comme Newton, du génie, ou est-ce que l'observation aussi?
Alors, je crois que ça commence par l'observation, parce que, évidemment, cette histoire de pomme, tout le monde dit aujourd'hui, c'est un peu une légende. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire de mise au point de la théorie de la gravitation universelle? On sait que Newton s'est intéressé à cette question quand il était à la campagne, et dans une campagne où il y avait des vergers, où il a sûrement vu des fruits tomber, et en l'occurrence, des pommes. Alors, c'est peut-être pas forcément en voyant une pomme tomber, mais beaucoup s'accordent à dire que c'est probablement dans ce cadre-là qu'il s'est posé la question. Mais finalement, pourquoi les pommes
et pourquoi pas la pluie,
tombent-elles et la Lune, les autres planètes qu'on a au-dessus de la tête, elles ne tombent pas? Pourquoi quand je jette une pomme ou un caillou, il décrit une trajectoire oblique et finit par retomber, alors que notre satellite naturel, la Lune et les autres planètes ne font pas la même chose? Et c'est en se posant probablement cette question qu'il a avancé. Il avait trouvé la bonne question et il a apporté une réponse.
Jamy, est-ce que vous avez toujours été comme ça compétent en science, ou est-ce que vous pouvez le dire à nos auditeurs, est-ce que c'est on parle de science infuse dans cette émission, est-ce que parfois il faut que ça infuse très longtemps avant de devenir un petit peu l'esprit scientifique? Est-ce que l'esprit scientifique se cultive?
Alors,
on dit souvent toi t'es un scientifique, toi t'es un littéraire. Mais en fait, pour peu qu'on s'intéresse et qu'on ait votre curiosité, on peut être littéraire et devenir scientifique.
Encore une fois, je ne pense pas avoir l'esprit scientifique. Je l'ai dit, je suis littéraire, je ne suis pas scientifique. Vous l'avez bien dit, il faut parfois que ça infuse longtemps. Et je le dis souvent à ceux qui m'entourent, mes collaborateurs et autres, il me faut du temps pour comprendre. Parce que j'aime bien comprendre. Voilà, mais non, je n'ai pas été un très bon élève en sciences.
Mais vous avez un autre point commun avec les grands scientifiques, ceux qui ont la science infuse, c'est qu'on s'aperçoit qu'en général, ils étaient pluridisciplinaires. Newton, puisqu'on parle de lui, n'était pas seulement mathématicien et physicien, il était alchimiste, théologien, philosophe. Vous aussi, vous avez ce côté, pour être un bon scientifique, faut être pluridisciplinaire. Vous êtes à la fois littéraire, scientifique, vous intéressez à mille choses.
On s'intéresse à tout, et vous disiez qu'il était, il avait tout ce champ d'investigation, mais même en science, parce qu'on a parlé de la gravité, mais il a défini les lois du mouvement, il s'est intéressé à la lumière. C'est énorme, énorme. Il a failli perdre la vue en regardant le soleil. Voilà, mais il a fait cette expérience extraordinaire de décomposition de la lumière. Encore une fois, remettons-nous dans le contexte.
Bien sûr, on n'avait pas les instruments non plus dont on dispose aujourd'hui.
Et pas l'idée, c'est-à-dire
même
que les gens regardent un arc-en-ciel. On est à la fin du XVIIe siècle. Les gens regardent
un
arc-en-ciel.
Ils pensent que c'est Dieu qui envoie un signe.
Il se demande comment ça fonctionne.
Il y a peut-être qui avait fait le lien quand même du fait qu'il y ait la pluie et le beau temps. Peut-être qu'au fil des siècles, on s'était peut-être dit que ça avait un lien, non? Non, vous croyez vraiment que c'était un signe divin encore à l'époque?
Je pense
que oui, dans les campagnes, vous savez.
Évidemment.
Et l'orage, alors aussi, on pensait que c'était une punition divine ou des choses comme ça?
Tout ça, absolument.
Heureusement que Newton était là.
Il y a une chose, la loi de la gravitation universelle, Newton l'a imaginée en pleine pandémie, alors que la peste frappait l'Angleterre. Est-ce que vous croyez justement que ces périodes de pandémie qu'on est en train de vivre notamment, et puis le confinement, ça favorise ceux qui ont la science infuse à la fois à travailler, à réfléchir, à se concentrer. On est plus tenté d'aller faire le kéké dans les dîners. Oui, ce que vous faites.
Comme au 19e.
Il y a quelque chose qui aide. On voit que, par exemple, en un temps record, on a trouvé des vaccins.
Oui, alors on a trouvé des vaccins en temps record parce que on avait des outils qui le permettaient. Oui. C'est sûr que il a fallu 600 ans, je crois, pour trouver une manière de soigner la peste, 30 ans pour trouver un médicament qui permette de soigner contre le sida. Et là, en un an, on découvre des vaccins. Parce qu'on dispose d'outils très performants qui ont été mis au point au cours des 50 dernières années et des 20 dernières années. Donc voilà, mais pour répondre à votre question sur
ces périodes de pandémie qui nous obligent à une sorte d'introspection, de réflexion, de...
Alors je pense que ça dépend des individus, parce que c'est vrai qu'à un moment donné on est contraint de se retrouver un petit peu dans son entre-soi là, dans son entre à réfléchir, mais en même temps, je crois que ces réflexions, elles ne peuvent aboutir que s'il y a eu un échange préalable et des échanges qui suivent.
On ne peut pas découvrir tout seul.
Non. Et il faut partager à un moment donné. Donc, moi, je suis très, très partagé sur cette question de « Ah, on va se retrouver isolé, on va pouvoir réfléchir, faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. » Certes, pendant un temps, mais très vite, on a besoin des autres pour échanger et pour se nourrir, parce que finalement, même si on a dit que Newton était quelqu'un d'un peu difficile à vivre, qui était un peu taciturne, il échange beaucoup avec les scientifiques de son temps, avec Edmond Halley qui donnera son nom à la comète. Il y a des échanges là vigoureux avec Robert Hooke et d'autres scientifiques. Donc voilà, ces découvertes, bien sûr, elles viennent de sa réflexion, de son travail intense, mais il y a aussi derrière,
mais il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, donc.
Mais si je peux me permettre aussi, j'ai l'impression que peut-être pour conclure ce sujet Newton, que ce qu'on perd aujourd'hui, c'est le côté scientifique pluridisciplinaire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, chez les scientifiques de métier, on va plutôt vers une hyper spécialisation.
Mais ça, c'est normal parce que à l'époque de Newton. On parlait pas de scientifiques, on parlait de savants. Donc les savants,
les sachants, on pourrait dire,
travaillaient travaillaient dans un secteur, la physique, alors l'alchimie, la médecine, et puis ça s'arrêtait là, alors qu'aujourd'hui dans chacune des disciplines il y a des sous-disciplines qui elles-mêmes ont débouché sur d'autres sous-disciplines, et aujourd'hui c'est extrêmement complexe, voire impossible, d'avoir une connaissance de tout ce qui a été découvert et se sait autour de nous.
Sauf si vous regardez C'est Jamy sur France 5 à partir de lundi. Là, vous comprendrez tout. Jamy, vous restez avec nous.
Avec plaisir.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, à l'inverse de vous, Jamy, elle répond aussi à des questions, mais des questions qu'on ne s'est jamais posées, ou moins souvent en tout cas. Oui. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, une question simple, peut-on tout savoir, vous, oui, et Pic de la Mirandole aussi, visiblement.
Alors, qui est-il, ce Pic de la Mirandole? Il est né le 24 février 1463 à Mirandola, dans la province de Modène, dans le nord de l'Italie. Giovanni Pico della Mirandola, qu'est-ce que c'est joli comme nom. Et il appartient à une famille noble et très riche, c'est la chance de sa vie, parce que dès sa petite enfance, il fait preuve d'une curiosité, d'une soif d'apprendre, d'une mémoire absolue. Absolument prodigieuse. Et par chance, comme il naît dans une famille privilégiée, on va aller encourager chez lui cette soif de connaissance. À 10 ans, oui, je dis bien à 10 ans seulement, il s'est déjà distingué comme un extraordinaire orateur et comme un merveilleux poète. C'est un enfant génial, brillantissime. C'est un surdoué, un genre de Mozart de la connaissance. Bon, à 14 ans, il se met à s'intéresser au droit.
On sent une certaine déception. non, de votre côté, Clémentine.
Non, pas du tout. Mais il prend les choses par chaque bout, si vous voulez. Il commence, il a étudié la poésie. Bon, et là, il se dit le droit. Très bien. Il étudie le droit pendant 2 ans. Et les textes de l'Antiquité, bien sûr, le fascinent. Et pour les étudier, il a besoin d'un petit peu de grec, d'un petit peu de latin. Donc très bien, pas de problème. Prenons le grec, le latin. Et puis il s'intéresse à tout l'apport de l'Orient dans la connaissance humaine. Et donc il apprend également l'hébreu, et puis le chaldéen, et puis tant qu'à faire l'arabe, comme ça il pourra tout lire. Alors là, ça va pour le droit. Après, ça ne suffit évidemment pas à combler sa soif d'apprendre. Il veut s'instruire dans tous les domaines de la connaissance. Il rêve d'assimiler le savoir universel. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va se lancer dans un genre d'Erasmus de longue durée avant l'heure, parce qu'il part pendant 7 ans d'une université à l'autre. Et pendant ces 7 années, alors il découvre toutes les universités. Il mène d'ailleurs un train de vie fastueux, parce que c'est un homme très 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 curieux, bien sûr. Mais enfin, il aime son petit confort. Donc au fil de ses voyages, il achète aussi des livres. Il constitue une extraordinaire bibliothèque. Et partout où il va, il est précédé de sa réputation d'érudit. Et on connaît son éloquence, la solidité de son jugement. On le consulte. Il sera d'ailleurs reçu par le roi de France Charles VIII. Et donc en mars 486, après un long séjour à Paris qui couronne son périple intellectuel européen, Pic est de retour à Florence. Et c'est là, dans la splendide arrogance de sa jeunesse, il a tout juste 23 ans, qu'il est saisi d'une idée absolument folle. Il conçoit le projet inouï de convoquer à un vaste débat les esprits les plus doctes de la chrétienté pour discuter publiquement de tous les champs du savoir. Petite formalité pour Pic de la Mirandole, il publie 900 thèses sous le titre « Conclusions philosophiques, kabbalistiques et théologiques ». Et grand seigneur, il invite tous les érudits d'Europe à en débattre avec lui à Rome, en disant « Si vous voulez venir discuter du savoir du monde à Rome avec moi, venez et je paierai vos frais de voyage. » C'est magnifique, c'est un genre... Ça fait penser un peu...
Oui, à des symposiums, un forum comme ça, où vous invitez tout le monde.
Mais c'est magnifique, c'est un genre de Davos avant l'heure, de cet homme érudit et à la fois riche et qui dit « Venez, discutons ensemble de tout le savoir du monde et je vous paie le voyage si vous n'avez pas l'argent. » Alors c'est à partir de cet épisode des 900 thèses que va naître cette légende tenace à laquelle Pascal fera allusion. Selon Pascal, Pic se piquait justement de pouvoir discourir de omni recibili, c'est-à-dire de toute chose connaissable. Il était capable de parler de tout. Mais l'époque est quand même compliquée quand vous êtes un savant. Et 13 de ces 900 thèses de Pic de la Mirandole vont être jugées hérétiques. Donc il est excommunié. Ça, c'est ce qui pend au nez d'un certain nombre de scientifiques à l'époque. Donc très rapidement, il écrit en des excuses, un chef-d'œuvre d'argumentation subtile. Il est obligé de fuir en Italie. Il trouve refuge chez Laurent de Médicis. Mais il ne sera acquitté du chef d'hérésie qu'en 1493 par le pape Alexandre VI. Et c'est ce qui est terrible aussi pour un grand esprit comme celui de Pic de la Mirandole, c'est que à cause de cet esprit du temps, de cet esprit critique et de la peur de la punition, de l'excommunication, il va devoir renoncer à toute autre étude que la littérature sacrée. Il va même brûler au passage la plupart de ses poésies de jeunesse. N'oublions pas qu'on est alors dans les années Savonarole. Il ne fait pas bon avoir une pensée libre. Et avant sa mort, Pic de la Mirandole donne tous ses biens aux pauvres. Son ambition à ce stade de sa vie, c'était de partir découvrir le monde pieds nus en prêchant les évangiles. Mais malheureusement, il est victime d'une fièvre maligne à laquelle il ne survit pas. Et il meurt à 31 ans à Florence. Oui, voyez-vous, Pic de la Mirandole reste l'inoubliable auteur d'une œuvre majeure, son célèbre discours sur la dignité humaine. Il y qualifie l'homme de caméléon. Parce que l'homme, ça rejoint votre conversation à l'instant sur Newton avec Jamie, c'est que l'homme est la seule créature en ce bas monde à être libre de choisir qui il veut être. Et dans ce texte de Pic de la Mirandole, le créateur s'adresse au premier homme et il lui confère le privilège de la liberté. Voilà ces deux phrases de cet ouvrage de Pic de la Mirandole. « Je t'ai placé au milieu du monde afin que tu puisses plus facilement promener tes regards autour de toi et mieux voir ce qu'il renferme. Toi seul, tu peux grandir et te développer comme tu le veux. Tu as en toi les germes de la vie sous toutes ses formes. Eh bien voilà, je crois que tous ces génies de l'histoire de l'humanité, tous ces curieux, tous ces inventeurs, tous ces créateurs, des Léonard de Vinci, des Newton, des Émilie du Châtelet, dont vous allez nous parler, Stéphane, et tant d'autres, tous furent à leur manière des pics de la Mirandole, ayant compris comme lui que la soif de comprendre, la curiosité, sont l'un des grands moteurs de l'existence humaine.
Merci Clémentine de la Mirandole. Clémentine Portier-Calumet. On vous retrouve lundi, parce qu'en fait, vous ne faites pas partie du quiz.
Oui, pour ne pas vous ridiculiser devant Jamy, Clémentine a gentiment décidé de laisser son siège à celui qui est désormais, à l'heure où on se parle, il n'est plus un confrère, c'est plus un ami, c'est un concurrent.
Vous voulez dire que donc vous avez protégé Clémentine,
elle pour ne vous va exposer
pas m'exposer en première ligne.
Vous avez su lire entre les lignes. Jamy, vous, dans la curiosité légendaire, vous allez adorer la séquence qui suit, un quiz de culture générale historique où l'on répond aux grandes questions essentielles. Aristide Briand a-t-il pu manger des haribots? La plus longue saucisse du monde est-elle plus longue que la galerie des glaces?
Alors là, je m'en fous royalement.
Non, je sens que ça vous passionne, Jamy. Vous êtes juste timide. À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'essentiel, c'est de participer, disait Pierre de Coubertin, une devise qu'a faite sienne un peu contraint et forcé Stéphane Bern depuis qu'il affronte Clémentine dans le quiz, une devise qui donne chez lui après chaque défaite.
Oui, mais on rit, c'est ça l'essentiel.
Aujourd'hui, c'est face à Jamy Gourmaud, un animateur phare de France Télé comme vous. Il fallait bien vous départager. Jouons à Bern to be alive. Première question, c'est ainsi Jamy. C'est toujours Stéphane qui hérite de la première question. Qui a inventé la démocratie? On peut répondre sans se tromper, les Grecs. C'est durant l'Antiquité, dans les cités d'Athènes, que naît le pouvoir du peuple, démos, peuple et kratos. Le pouvoir, on en a parlé des dizaines de fois ici. Mais la démocratie est-elle vraiment une invention humaine? On peut en douter, car certains animaux votent également. Vrai ou faux, Stéphane, vous qui aimez tant les animaux?
Je pense que les animaux votent. Enfin, en tout cas, ils
à main
choisissent...
levée ou à patte levée? Comment ça se passe?
Non, mais ils choisissent leur chef de meute, par exemple. Les loups choisissent leur chef de meute.
Mais comment font-ils pour voter?
Ils choisissent celui le mâle dominant.
Ils c'est pas un vote, alors si c'est le mâle
c'est
dominant,
pas un vote,
parce qu'il y a un mâle
ça.
Dominant.
Non, mais évidemment, c'est une image, j'imagine, ou alors il y a un piège, mais c'est une image, c'est-à-dire qu'ils se rangent plutôt du côté d'un mâle dominant.
Je laisse votre esprit vagabonder à sa guise, mais bon, la démocratie écoutez, est-elle une invention humaine
alors, si vous voulez,
où certains animaux votent également?
Non, les animaux ne mettent pas des petits papiers dans des urnes qui sont ouvertes le dimanche dans les écoles. Voilà, si c'est ça la réponse que vous voulez.
Donc vous dites vrai ou faux? Que les animaux votent?
Ils votent pas, non, dans ce cas-là.
Vous avez perdu.
Notez, Jamy, l'art de reposer la question alors qu'il avait la bonne réponse pour le planter. Oui, les animaux votent, Stéphane, vous aviez la bonne intuition. Pourquoi vous vous êtes interrompu?
Mais c'est vous qui m'avez dit.
Du tout, j'ai juste reformulé la question comme pour que les auditeurs qui arrivent
en
chemin
non,
sur
Europe 1
entendent la question.
Je vous ai dit. Alors, ils mettent un billet dans l'urne le dimanche.
Parce que ce qui nous intéresse, Stéphane, c'est pas de gagner ou de perdre, évidemment. C'est votre culture générale.
Vous m'insultez.
Les licaons d'Afrique se réunissent régulièrement et votent pour partir ou non à la chasse. Alors, pas d'urne, ni de bulletin, mais ils éternuent. Si personne n'éternue, on ira à la chasse plus tard. Si une majorité le fait, la meute se met en place. Fascinante nature. Vous voyez, Stéphane, vous avez appris quelque chose, là. Vous avez la reprise. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se réjouir quand il a perdu.
Il a quand même été piégé. Hein.
Oui, Stéphane, c'est vrai. Il a été piégé.
J'aurais pas aimé.
Les loups font la même chose. Ils choisissent leur chef de meute. Voilà. Ils élisent leur président.
Alors, on me dit en régie, parce qu'évidemment, ils ont peur quand même de vous, Stéphane, ils ont peur. Non. Vous avez le bras long, ils savent que ça remonte jusqu'à l'Elysée. Donc oui, effectivement, évitons le contrôle fiscal, je vous donne un point, Stéphane, je vous donne un point. Question numéro 2 pour vous, Jamy. Est-ce que Napoléon Bonaparte aurait pu boire un grog? En clair, est-ce que cette boisson chaude à base de rhum, délicieuse boisson, a été inventée suffisamment tôt pour que l'empereur puisse en goûter?
Alors, je pense que non. Il n'aurait pas pu boire de grog.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ce qui me fait dire ça, c'est que le grog a été inventé à une époque où les Anglais ont commencé à utiliser du rhum, quand ils étaient privés de cognac. Et donc, ils ont utilisé le grog sur leur bateau, une boisson avec du rhum et du citron. C'est ce que je pense.
C'est pas sorcier, mais est-ce que c'est la bonne réponse?
Vous avez... perdu.
Même Jamie Gourmaud peut perdre. Oui,
c'est rassurant.
Oui, le grog a été inventé en 1740 par l'amiral anglais Edward Vernon. Il a mélangé un litre d'eau chaude avec un quart de litre de rhum pour limiter la consommation de cet alcool. L'amiral était surnommé le vieux grog parce qu'il s'habillait en tissu grossier à gros crins qu'on appelait grogham en anglais, d'où ce surnom. Voilà la véritable histoire du grog qu'il faut consommer évidemment avec
modération.
J'ai une super histoire malgré tout parce autour du grog, parce que quand les Anglais ont commencé à consommer du grog, le grog sur les bateaux, ils y ajoutaient du citron. Et donc ce citron leur a permis de lutter contre le scorbut à une époque où les marins français buvaient plutôt de l'eau de vie. On dit que finalement le grog apportait finalement
c'était surtout le citron en fait. Ils auraient pu boire de la citronnade aussi.
Voilà.
Question numéro 3 pour vous Stéphane. Harry Houdini, dont nous avons parlé ici même, vous avez dressé le portrait. Alors vous avez intérêt à bien répondre à la question. Célèbre illusionniste américain d'origine hongroise, a déposé de nombreux brevets d'invention. On l'a raconté, on lui doit des ustensiles pour se libérer de la camisole de force, mais aussi l'invention d'une combinaison de plongée qui se retire facilement en cas de danger. Mais est-ce que Houdini a connu cet objet démoniaque qu'est le parcmètre?
Le parcmètre. Moi, j'ai connu des parcmètres.
Mais il y en a toujours, Stéphane. Ils sont numériques.
Oui, mais moi, j'ai connu les parcmètres, vous savez, avec le truc rouge, quand c'était, votre temps était dépassé, vous mettiez des pièces dedans.
Oui, vous parlez avant-guerre. Oui, d'accord.
Il m'a manqué l'année déjà, Houdini.
Alors ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Vous avez fait le portrait d'Houdini. Vous devez le connaître par cœur, Stéphane.
Non, là, c'est pas du par cœur.
Il est mort dans les années folles.
Écoutez, je dirais non, parce que les parcmètres, c'est à partir du moment où il y a eu vraiment beaucoup de voitures. On voit pas beaucoup de parcmètres sur les photos de Paris pendant la guerre. Vous voyez,
j'aime ce genre de raisonnement. C'est quand vous raisonnez comme ça que vous aboutissez parfois à la bonne réponse.
Suivez
votre intuition.
Moi, je dirais non, parce que les parcmètres, c'est après la Seconde Guerre mondiale.
Il dit non.
Vous avez...
Et il a gagné, pour une fois, je n'ai même pas eu à truquer le résultat pour qu'il ait son point. C'est un beau point, Stéphane. Houdini est mort à 52 ans en 1926. Je voulais un peu souffler. Le parcmètre est une invention américaine de 1935, et on est quand même avant-guerre. À Oklahoma City, on se rend compte que les travailleurs de la ville garés sur les parkings empêchent les touristes de se garer. Résultat, c'est pour ça qu'on a inventé le parcmètre.
Mais c'est vrai, bêtement, moi je pensais aux images de la guerre à Paris. En cherchant des parcmètres dans mes souvenirs.
Non, mais
c'était en Angleterre, en Amérique qu'il aurait fallu imaginer.
C'est bien quand vous pensez comme ça, parce que vous marquez des points.
C'est bien joué, Stéphane. Mais attention, Stéphane, parce que vraiment, le sort s'acharne contre vous. La question suivante vaut 2 points. Question numéro 4 pour vous, Jamie. Attention. Les historiens considèrent que l'agriculture a été inventée au néolithique. Voici ma question perverse. Qu'est-ce qui est le plus ancien, le pain ou l'agriculture? Le plus ancien. Le pain ou l'agriculture?
Je dirais le pain.
Vous avez gagné.
Peut-être, Stéphane, vous pensiez avoir la victoire et vous la touchiez du doigt. Et non, 2 points pour Jamie. Le pain est plus ancien que l'agriculture. Alors, à côté, c'est étonnant parce qu'on a longtemps cru que l'agriculture avait entraîné l'invention du pain. C'était plutôt logique, mais non. En 2018, une équipe de recherche danoise trouve dans l'actuelle Jordanie des restes de pain carbonisé datant de 14 400 ans, soit 4000 ans avant l'apparition présumée de l'agriculture. Les chasseurs-cueilleurs ne se contentaient donc pas de manger des graines. Ils les broyaient, les tamisaient, les malaxaient et les faisaient cuire pour faire du pain plat. Question numéro 5, c'est une question de rapidité. C'est l'ultime question du jeu, elle va vous départager. On va savoir qui est le Newton de France Télévisions. Alors, on considère parfois un peu rapidement Léonard de Vinci comme un inventeur de talent. Je dis un peu rapidement, car si on avait construit certains objets à partir de ses croquis, ils n'auraient pas tous fonctionné. En quoi Léonard était-il vraiment un génie? Donc, ce qui fonctionnait vraiment bien par rapport à ses croquis. 3 possibilités, vous écoutez les 3, vous me donnez ensuite le chiffre. 1. Il était un génie en parachute. 2. En scaphandrier. Ou 3. En écluse.
En écluse.
Jamie, vous aviez aussi la bonne réponse, mais je crois pouvoir dire La photo finish le confirmera que c'est Stéphane qui remporte le quiz. Stéphane, bon, vous avez bien répondu tous deux. Les écluses, effectivement. Son parachute à Léonard de Vinci partait en vrille. Et en plus, il avait été inventé par des ingénieurs de la ville de Sienne, en Italie, qui avaient utilisé des travaux d'Allemands. Son scaphandre était une amélioration d'idée et il ne pouvait pas aller plus loin qu'un mètre, ce qui est quand même un petit peu con de se mettre dans un scaphandre pour aller à un mètre sous l'eau. Mais en écluse, il touchait sa bille, le père Léonard, maître de l'hydraulique, passionné de pompe. Il a été sollicité à Florence pour dériver le fleuve l'Arno. Mais petit souci, il ne savait pas comment calculer un débit. Ça manquait un petit peu à la panoplie de Léonard. Voilà, vous avez appris des choses. Et Stéphane Bern a gagné, ce qui est bien l'essentiel dans cette émission. Pas de contrôle fiscal.
Bravo.
Merci.
Bravo
Stéphane.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, ou plutôt cet après-midi, comme l'a dit avec beaucoup de subtilité Mathieu Noël, scientifiquement vôtre.
Beaucoup d'à-propos, vous voulez dire, je pense, Stéphane. Effectivement, c'était une belle trouvaille, scientifiquement vôtre. Deux heures
je trouve,
pour
bravo,
vous raconter l'histoire. Je ne sais pas surtout jusqu'où je peux aller chercher ça. Pour vous raconter
vous
l'histoire.
Vous auriez pu applaudir, les gars. Hein.
Un point est retiré à Stéphane pour le quiz. Stéphane perd le quiz, finalement. Attention. Deux heures, les amis, pour vous raconter l'histoire. Et ceux qui avaient la science infuse. D'Isaac Newton au Isaac Newton du service public, Jamy Gourmaud, notre invité, de retour sur France 5 pour une nouvelle émission baptisée C'est Jamy. C'est à partir de lundi. Est-ce que vous serez entouré d'une petite équipe, Jamy, ou c'est vous tout seul, là, cette fois-ci?
Ah, bah non, c'est pas moi tout seul. Il y a une équipe, il y a des chroniqueurs qui vont intervenir depuis chez eux, d'ailleurs, puisque moi je suis chez moi et eux interviennent depuis chez eux. Voilà, donc il y a Lynn Landau, une journaliste dessinatrice que vous pouvez voir sur France Info, Hélène Boucher aussi qui connaît bien les animaux. Il y aura également Camille Gobert qui est journaliste à Science et Vie La Recherche, qui intervient chaque jour, et puis David Chemlin, enfin toute une équipe
de Team Jamy.
Voilà, de journalistes, chacun avec sa spécialité, son expertise.
Ah, mais nous aussi on a une équipe que je vais vous présenter dans un instant. Mais Mathieu, dans cette deuxième heure, on continue notre balade à la rencontre de ces personnages de l'histoire qui avaient la science infuse. Après Isaac Newton, je vais vous raconter le destin étonnant d'Émilie du Châtelet, une femme de lettres, mais qui s'est intéressée à la science, devenant ainsi la première femme mathématicienne française. Et pour votre portrait, Jamy Gourmaud, il faudra voir avec Mathieu Noël, c'est le seul responsable, et vous allez voir, c'est pas que gentil.
Responsable, mais pas coupable, je préfère l'annoncer d'ores et déjà. Pour nous accompagner et remonter aux origines de notre quotidien, deux grands esprits scientifiques, notamment David Castello-Lopez, un journaliste passé maître, comme vous, Jamy, dans l'art de la vulgarisation. J'en veux pour preuve sa remarquable explication l'autre jour sur la fabrication de l'aluminium.
J'ai essayé de comprendre leur méthode, mais...
David, aujourd'hui, qu'allons-nous comprendre avec vous? Aux origines, de quoi remontons-nous?
C'est beaucoup plus simple, ce sont les bruits que font les passes d'abonnement au métro à Paris, qu'on appelle le pass Navigo.
C'est la science-fiction pour Stéphane. Vous avez le son pour qu'il puisse voir le grand pas?
Vous avez déjà pris le pass Navigo?
Le métro, tout simplement.
Non, parce que le métro aussi, j'imagine bien.
Vous avez un pass Navigo?
Bah, je l'ai plus depuis que je suis à Europe 1.
Il s'en sort d'une pirouette. Très bien.
Bah, vous savez, les privilèges qui sont les nôtres.
Les privilèges qui sont les nôtres, non, je ne les connais
aussi,
pas.
Vous avez un carrosse qui vient vous chercher chez vous.
Une chaise d'apporteur.
Et vous avez la Ferrari.
La Ferrari, bien sûr, Stéphane. Bien sûr, dans vos rêves, bien sûr.
Je sais que c'est une voiture.
Ils confondent toutes les marques.
Hein. Oui, c'est pareil.
Fiat, c'est le groupe Ferrari. Et dans le groupe Fiat, mais vous savez, une Fiat Punto, c'est une Fiat Punto. La brioche vendéenne, en hommage à Jamy qui vient de Vendée. C'est le thème d'Olivier Pouls aujourd'hui.
Et histoire de vous faire patienter jusqu'à la recette et à l'histoire de cette brioche, regardez, vous avez une brioche devant vous. Alors,
c'est pas une brioche.
Elle n'est pas vendéenne.
C'est une brioche qu'on trouve à la boulangerie.
Vous êtes foutu de notre gueule.
Non. La brioche vendéenne, elle n'est pas Covid parce qu'on la partage. Des brioches individuelles.
Elle n'est peut-être pas Covid, mais elle est peut-être meilleure.
Mais vous allez la goûter. Elles sont bien aériennes, en tout cas, elles ont bien monté.
C'est la brioche de Vainet, c'est gonflé, ça. C'est exactement la tête qu'elle a.
C'est le secret d'une bonne brioche, c'est qu'il faut qu'elle soit très aérienne et très gonflée.
Je ne sais pas comment faire la transition avec Stéphane, puisque je parle de Stéphane.
C'est le naturel, il revient au galop. On connaît tous ce proverbe, mais d'où vient-il?
Nous le saurons dans le mot de la fin, la chronique qui clôt cette émission chaque jour. Mais tout de suite, découvrons cette femme admirable qui, avec Jamy, nous fascine parce qu'elle a été une grande scientifique et qui fascine surtout Stéphane parce qu'elle a été la meuf de Voltaire. Voici l'histoire d'Émilie du Châtelet.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Émilie du Châtelet est née en 1706 à Paris. Et Isaac Newton, qui a déjà passé la soixantaine, n'en entendra jamais parler. Émilie, en revanche, va consacrer une partie de son existence à Newton, mais jusqu'à son dernier souffle. Pour comprendre comment, il faut remonter à l'enfance, plutôt dorée, de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, qui grandit dans une famille de la haute aristocratie française où elle reçoit une éducation identique à celle de ses frères. Avec son père, Louis-Nicolas de Breteuil, la jeune fille se frotte aux langues anglais, italien, mais aussi grec et latin, à la philosophie naturelle, autrement dit la physique et les mathématiques. Avec sa mère, elle découvre l'astronomie, la théologie et l'étiquette, un peu de clavecin, de chant, de danse et d'équitation. Et voilà qu'à 16 ans, Émilie est parfaitement mûre pour entrer dans le grand monde à Versailles, en pleine régence, où son père, qui occupe le poste d'introducteur des ambassadeurs étrangers, a toutes ses entrées. Le siècle des Lumières commence, les mœurs se libèrent, la cour est joyeuse et animée au gré des débats enflammés qui agitent tout ce que la France et l'Europe comptent de beaux esprits. Émilie se sent comme un poisson dans l'eau. Émilie, ou Madame du Châtelet, comme il faut l'appeler désormais depuis son mariage à 19 ans avec un homme qui en a 40, le marquis du Châtelet. Grand militaire devant l'éternel, celui-ci comprend vite que sa femme est bien plus intelligente que lui et qu'elle a le goût des plaisirs. Mais le marquis a l'esprit large, le couple s'entend à merveille pour vivre une existence relâchée où l'infidélité est admise. Pendant que monsieur visite ses forteresses, madame profite de sa jeunesse. Charmeuse, vive et taquine, elle est toujours prête à courir les salons ou les auberges un peu canailles, où elle peut jouer aux cartes toute la nuit. Ça ne lui vaut évidemment pas que des amis. Madame du Défant, l'une des plus belles langues de vipère de son époque, a un peu de mal avec ce succès. Elle écrit « Représentez-vous une femme grande et sèche, sans cul, sans hanches, la poitrine étroite, de grosses jambes, des pieds énormes, le visage aigu, le nez pointu, le teint noir, la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées. »
Sympa.
C'est vachard.
Ça vous plaît, mon sens, Stéphane.
Et surtout, je vais vous dire, Mathieu,
dites-moi.
C'est faux.
Émilie
du Châtelet, séduit par son esprit, mais c'est aussi une femme séduisante, bien loin de ce minable portrait jaloux. Parmi ses amants, un nom va changer sa vie, celui du philosophe Voltaire, dont elle sera durant 15 ans la compagne. Une rencontre qui va changer son nom. Lui l'appelle Madame Pompon Newton, faisant référence tout à la fois à sa coquetterie. Certains ont osé avancer qu'elle était un peu trop maquillée, vous savez.
Ce qui est bien, c'est que vous dénoncez les langues de vipère, mais vous en rajoutez une couche derrière, de phare, si j'ose dire.
C'est le contrat qui nous lie. Vous m'avez demandé.
Vous avez raison, c'est vrai.
Et son génie mathématique. Donc, vous voyez les deux. Madame Pompon, c'est parce qu'on se pomponne. Et Madame Newton, parce qu'elle avait la fibre mathématique. Leur correspondance ne laisse pas grande place à l'imagination quant à la nature volcanique de leur liaison, mais leur histoire va bien au-delà et pour cela, il faut bien un petit coup de pouce du destin. Lorsque les deux se rencontrent en 1733, ça chauffe pour l'écrivain dont les lettres philosophiques n'ont pas franchement plu au roi Louis XV. Pour échapper à la police du roi, Voltaire se réfugie sur les terres d'Émilie, dans son château de Ciré aux frontières de la Champagne. En 1735, Émilie quitte la vie parisienne pour le rejoindre. Pendant plus de 10 ans, ils y mènent une vie de plaisir, mais aussi de science et d'études. On installe un laboratoire au château et Madame du Châtelet y multiplie les expériences quand elle n'écrit pas à tout ce que l'Europe compte de mathématiciens, de savants, de physiciens, Maupertuis, Réaumur, Bernoulli, Buffon. De lettre en lettre, son influence progresse à vue d'œil, d'autant qu'elle intervient dans l'un des grands débats de l'époque, celui entre Leibniz et Newton. La question est celle de la nature de l'énergie cinétique, qu'on appelle alors la force vive. En lâchant des billes de plomb dans de l'argile molle depuis les étages de son château, Émilie démontre que Leibniz a vu juste. Le livre qu'elle écrit en 1740, Les institutions de physique, reste l'une des présentations les plus claires de la pensée de Leibniz. Voyez-vous, je fais une incise, j'ai jamais rien compris à Leibniz, mais Leibniz vu par Madame du Châtelet, c'est beaucoup plus simple.
C'est comme la théorie de l'attraction universelle vue par Jamie Gourmand, notre invité.
Exactement, elle défrichait les pensées des grands de cette époque. Émilie du Châtelet se lance aussi dans une véritable petite guerre de tranchées autour de la théorie des forces motrices dans un long, ça doit vous plaire, vous qui êtes une voix dans un long débat avec le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, d'Ortoud Méron. Celui-ci n'apprécie pas vraiment qu'une femme estime qu'il se trompe, démonstration à l'appui. La guéguerre dure 2 ans, mais en 1742, Madame du Châtelet a convaincu les grands mathématiciens du temps et peut écrire « Je ne suis pas secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison et cela vaut tous les titres. »
Pourquoi vous lui faites cette voix de pain bêche, la pauvre?
Je sais pas, j'essaie.
Vous l'imaginez comme ça?
J'essaie de mettre un peu d'animation dans les récits.
Ah oui, mais vous auriez pu lui faire une voix sexy à la Sharon Stone, un Basic Instinct.
Allez-y.
Je ne suis pas une secrétaire de l'Académie, mais j'ai raison, ça vaut tous les titres.
Là, on dirait Pretty Woman, vous voyez.
Ou Ugly Man, on ne sait pas.
4 ans plus tard, en 1746, elle était élue membre de l'Académie des sciences de Bologne, la seule d'Europe ouverte aux femmes. 2 ans plus tard, son nom est connu et reconnu dans toute l'Europe et chacun sait qu'elle s'est lancée dans sa grande œuvre, la traduction en français des principes mathématiques de Newton, qui, je le rappelle pour les connaisseurs, avait été écrit en latin. C'est là un authentique défi. Le latin et la pensée de Newton sont complexes. Il faut adapter des concepts mathématiques qui ont vieilli et transposer l'ancien langage géométrique du savant anglais dans un nouveau système, celui de Leibniz. Émilie avance avec acharnement, ne dormant que quelques heures par nuit. Les seuls écarts qu'elle s'autorise, encore une fois, sont ceux de l'amour. À 40 ans, elle se prend de passion pour le jeune d'Alembert, gloire montante des mathématiques françaises. Elle en tombe amoureuse. Elle en tombe aussi enceinte. Ah. Et ça, malheureusement, ça va lui coûter la vie, comme à beaucoup de femmes à son époque. Comme si elle avait senti le danger, Émilie du Châtelet passe sa grossesse à Lunéville, où elle travaille avec acharnement sur sa traduction, l'une des seules activités professionnelles ouvertes aux femmes à cette époque. Le 9 septembre 1749, 2 jours après avoir difficilement accouché d'une petite fille, Émilie boucle enfin sa traduction en présence de D'Alembert et de Voltaire, qui sont tous les deux rendus à son chevet. Alors que le manuscrit part aussitôt pour la bibliothèque du roi pour être conservé et archivé, Émilie du Châtelet meurt au matin du 10 septembre, quelques mois avant cette petite fille, qui ne lui survivra pas.
Oh.
Voltaire en est brisé au point de partir pour la cour du roi Frédéric II de Prusse pour tenter de faire son deuil. 10 ans plus tard, sa ténacité permettra de faire publier la traduction de l'amour de sa vie, traduction qui restera comme la référence pendant au moins 2 bons siècles. D'Alembert, lui aussi, rendra hommage, un hommage appuyé au génie de Madame du Châtelet lorsqu'il accompagnera Diderot dans la grande aventure de l'encyclopédie. L'un et l'autre avait bien pris toute la mesure d'Émilie du Châtelet. Madame Pompon Newton était tout simplement la première grande mathématicienne physicienne française.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissiez l'histoire de Madame Pompon Newton, Jamy Gourmaud?
Alors, je ne savais pas qu'on l'avait appelée Pompon Newton.
Bon, ça, c'est peut-être Stéphane. Hein.
Je connaissais cette histoire parce que il y a quelques années, quand j'étais tout jeune journaliste, j'ai écrit un bouquin sur le patrimoine champenois et j'ai visité, c'était en 1989, donc vous voyez, il y a quelques années, j'ai visité ce fameux château de Ciré-sur-Blaise. Et ce château, finalement, tout le monde le connaissait à l'époque, je sais pas vous Mathieu, mais vous vous souvenez des francs?
Oui, quand même, je me souviens des francs, oui.
Est-ce que vous vous souvenez du billet de 10 francs?
Oui.
Alors sur le billet de 10 francs, il y a Voltaire, et en arrière-plan, c'est le château de Ciré-sur-Blaise.
Oui, absolument.
Voilà. Ciré-sur-Blaise, bien entendu.
Comme ça? Ça, je ne savais pas. Ça, je ne me souviens plus.
Il y avait un château, effectivement, en arrière-plan, et je ne connaissais pas cette maison.
Et c'est ce château-là. Et je me souviens d'avoir visité ce château, et bon, à l'époque, je pense qu'il était beaucoup moins bien restauré qu'aujourd'hui, et il y avait dans l'étage, dans les greniers, un théâtre, qui était le théâtre que Voltaire avait fait construire, et venait là, quelques privilégiés assister à des pièces qu'on n'avait pas trop le droit de présenter à cette époque.
Alors, mais ce qui est fou, c'est que les grands esprits se rencontrent. Hein.
T'as dû vous parler de Jamy et
D'Alembert.
Ah non, oui, bien sûr,
et Émilie du Châtelet.
Est-ce que vous-même, vous nous disiez avoir visité son château, mais elle n'est pas très connue, Émilie du Châtelet. Est-ce que ce n'est pas encore ce machisme de la société qui a perduré? Pourquoi on n'apprend pas, on ne raconte pas l'histoire d'Émilie du Châtelet à l'école, notamment? C'est vrai qu'elle est moins connue que Newton, quoi.
Ben oui, c'est vrai. C'est d'autant plus regrettable parce que on est à un siècle où les femmes
sont savantes. D'ailleurs, je crois que c'est Voltaire qui écrivait d'elle « Personne d'autre qu'elle n'a plus mérité qu'on dise « c'est une femme savante ». Donc il était, alors évidemment, il était très impressionné par Émilie du Châtelet, mais à cette époque, les femmes fréquentent les cabinets de curiosité, ont probablement beaucoup plus d'aptitude pour ces matières, mais malheureusement, on n'en fait que pour les hommes. Voilà. Ça continue longtemps,
Tout le 19e siècle. C'est Marie Curie, l'une des premières à qui on a vraiment donné une place. Émilie du Châtelet, c'est également celle qui ose confronter Newton et Leibniz, le doute et la critique. Mmh. Au fond, c'est très audacieux de sa part. Ensuite, c'est ce qui rend valable d'ailleurs toute théorie, c'est-à-dire la confronter à des adversaires, douter, remettre en question en permanence, c'est ça la science.
Complètement. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure là, à propos d'Émilie du Châtelet et le fait qu'on ne parle pas d'elle et qu'on ait mis beaucoup de temps à parler des femmes et de la science. C'est aussi une histoire d'environnement. Pourquoi Émilie du Châtelet s'intéresse à la science? Parce que elle a grandi dans une famille qui s'intéressait à ces questions et avec des parents qui ne faisaient aucune différence entre leur fils et leur fille. Quand elle est enfant, elle croise dans la maison un certain Bernard de Fontenelle, qui à l'époque est le premier président, je crois, de l'Académie des sciences. Elle vit dans cet espace où d'ailleurs Fontenelle a une très très belle citation, moi que j'adore, j'aimerais beaucoup l'utiliser en épigraphe. Il dit « Transmettre, être pédagogue, c'est instruire et divertir. » Et donc, voilà, elle grandit dans cette atmosphère et c'est ce qui fait qu'elle va s'intéresser à ces questions.
Puisque elle est aussi passeur quelque part, bien un sûr, peu oui. comme vous, Jamie.
C'est-à-dire la simplification de Leibniz, c'est fabuleux.
Oui, elle simplifie les choses. Oui. Enfin, mais pour les simplifier, elle a besoin de comprendre.
Mais justement, on dit toujours rendre accessible au plus grand nombre ou vulgariser.
Ce mot vulgariser.
J'aime pas parce qu'il n'y a pas besoin de rendre les choses vulgaires. Il faut les rendre accessibles. C'est plus intéressant que les rendre vulgaires.
Alors, il faut les rendre accessibles et il faut les rendre accessibles en fonction du public qu'on a face à soi. En fait, quand on est face à des profanes, eh bien, on ne va pas utiliser la même vulgarisation, entre guillemets, que si on se trouve déjà face à un public d'experts.
Oui.
Voilà. Donc, il faut choisir ses mots en fonction du public que l'on a. Là où c'est compliqué, c'est que, parfois, la science, elle n'est pas simple à raconter. Oui. Et il faut faire très, très attention au raccourci. Parce que le raccourci peut masquer les choses ou les défigurer.
Mais est-ce qu'on a un rôle aussi éditorial dans votre cas? Et on n'a pas encore vu Jamie sur France 5. Mais par exemple, votre rôle, c'est aussi de faire prendre conscience des problèmes de l'environnement, du réchauffement climatique. Et on a besoin d'un expert et de quelqu'un qui a les clés pour nous permettre de décrypter ce qu'on ne perçoit pas.
En même temps, quand on voit les émissions de CO2 du camion de C'est pas sorcier, il a de quoi se faire pardonner aujourd'hui, Jamie. Il va falloir rattraper tout ça.
Parler au passé. Il est garé, bien rangé. Voilà. Évidemment, alors après, chacun sa technique pour attirer l'attention, faire prendre conscience. Moi, j'ai toujours considéré que l'explication valait mieux qu'une condamnation.
Oui.
Donc, je considère qu'à partir du moment où j'explique bien les choses, eh bien, ceux qui vont capter ce contenu, vont avoir les clés pour eux-mêmes faire.
Oui, qu'on se fait nous-mêmes notre cheminement intellectuel.
Tout à fait. Je vous donne les clés et normalement, avec ces clés-là, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise « pense comme ceci » ou « pense comme cela ». Et je trouve que c'est beaucoup plus réjouissant pour l'esprit humain de tout seul faire son chemin, à partir du moment où on a les bonnes clés.
Si vous deviez expliquer scientifiquement Stéphane Bern, vous diriez quoi?
En combien de temps?
En une minute, quoi.
En une minute, c'est beaucoup trop court.
Le sujet est trop complexe. C'est comme la théorie
et puis,
de la gravitation.
Il faut que j'étudie un peu.
Stéphane, voilà. En position.
Allez.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont la science infuse. Après Isaac Newton et Émilie Duchâtelet, Mathieu, l'heure est venue de dresser le portrait de notre invité du jour, Jamy Gourmaud, qui aime la science et qui aime encore plus la faire partager.
Oui Stéphane, et l'émotion est immense cet après-midi dans le studio Coluche. Surtout pour ceux d'entre nous qui furent jeunes dans les années 90, c'est-à-dire David et moi. Car il y a dans la vie des événements marquants, impossibles à oublier, qui vous accompagnent jusqu'à votre dernier souffle. Un premier baiser amoureux sous la pluie un soir d'avril à New York. Une circoncision trop tardive.
Ah, ça fait mal hein.
Ou encore, David, et là ça va parler à plus de monde, un coup de klaxon. Mais attention, pas un klaxon pourri de Toyota Yaris. Hein. Un gros coup de klaxon de camion de Kenworth W900 pour être précis. David a les larmes aux yeux en attendant le générique rock, presque punk de C'est pas sorcier, l'émission culte de vulgarisation scientifique de France 3 destinée aux jeunes et aussi aux profs de physique chimie à la recherche d'un support pédagogique fun pour occuper les élèves les vendredis avant les vacances. Émission portée par l'invisible Marcel, conducteur du camion, la pétillante Sabine, le facétieux Fred et notre invité du jour, icône des millennials, Jamy Gourmaud. Pour mesurer le degré de popularité d'un invité, le meilleur baromètre c'est mon fils de 8 ans. J'ai essayé de frimer moult fois auprès de lui en lui annonçant le nom des stars que je recevais dans ce studio. Tu sais, mardi, je reçois Elisabeth Badinter. Ok, non, mais mercredi, je reçois Bob Sinclair. Mais Cadmérade, jeudi. Sinon, vendredi en 8, on reçoit Jamy Gourmaud. Quoi, papa? Dis-moi pas que c'est pas vrai, tu reçois vraiment Jamy Gourmaud? Le vrai Jamy Gourmaud? Eh oui, fils, le vrai Jamy Gourmaud, tu sais, papa n'est pas n'importe qui. Dans le petit monde de la parentalité, on appelle ça l'effet Gourmaud. 20 ans à faire semblant de sillonner les routes de France dans un gros camion qui, en fait, n'a jamais quitté le 15e arrondissement. La preuve, dans le générique, il fait inlassablement le même tronçon de route. Et le mec est plus connu que Mick Jagger. Deux décennies de vulgarisation scientifique, donc, à proposer aux enfants et aux ados des expériences dont il aurait peut-être été bon, Jamy, de leur préciser qu'elles n'étaient pas toutes à reproduire à la maison. Voici les noms de celles et ceux qui nous ont quittés à cause de ces pas sorciers. Merci de ne pas applaudir. Julie Boulard de Bordeaux, suite au test intitulé « Comment atteindre une cible à plus de 1000 mètres ?» Elle a obtenu une réponse à même pas 1,40 m, ayant oublié la sécurité de la carabine. Benjamin Delsol de Val Thorens, suite au test « Comment une avalanche se déclenche-t-elle » Il l'a su très vite. David Castello-Lopez, enfin, suite au test.
Qui c'est qui peut avaler le plus de tabasco?
Qui, vérification faite, n'a jamais été au programme de C'est pas sorcier, c'était une initiative personnelle. Un loup solitaire de la connerie, comme on les appelle aux urgences. Oui, il y avait un petit côté dangereux dans toutes ces expériences, mon cher Jamy, mais on ne saurait vous le reprocher. Grâce à vous, nos enfants peuvent découvrir les secrets de la chimie de manière beaucoup plus ludique qu'à l'école. Ça tenait beaucoup à la qualité des sujets, idéalement choisis pour l'heure du goûter.
L'ecstasy, par exemple, est une drogue de synthèse. Elle est réceptionnée par des laboratoires clandestins qui la transforment en petits comprimés qui sont ensuite expédiés aux quatre coins du monde.
Super.
L'héroïne, quant à elle, est issue du pavot à
opium. Oui, merci, sacré Jamy. Ah, vous en aurez suscité des vocations de chimiste. Hein. Mais les enfants, d'où vient Jamy? Jamy, de son nom complet, très serial killer belge des années 80, Jamy Guy Bernard Gourmaud, est né au pays du Préfou et de la Trouspinette en Vendée le 17 janvier 1964, la même année que Lenny Kravitz, d'où ce côté rock. Un bac lettres et arts en poche, vous étudiez ensuite le droit, ça disons le tunnet, ça vous emmerde. Le plaisir et l'éclat arrivent avec le journalisme. Vous sortez diplômé de l'Institut pratique de journalisme Paris-Dauphine, vous remportez par la suite le prix du reporter au Festival international du scoop et du journalisme d'Angers pour un film sur les maternités roumaines, coiffant au poteau cette année-là Stéphane Bern et son reportage sur le kyste pyloninal du Comte de Paris. Vos débuts en télé, c'est dans un magazine baptisé Fractal. Alors déjà, vous parlez de science et c'est là que vous rencontrez Fred, votre futur copain de camion. On est en 92, l'aventure C'est pas sorcier s'apprête à démarrer. Elle s'étendra sur 20 saisons avec près de 570 épisodes sur des thèmes très variés. Hein.
La cocaïne.
Oui, non, Jamy.
Produite à partir de la feuille de coca.
Oui, bien sûr, Jamy. Oui, on n'a pas le temps de citer tous les thèmes, mais c'est très, très varié. très rigoureux, car vulgariser ne signifie pas simplifier. On en a déjà parlé, un divertissement oui, mais rigueur avant tout. C'est la marque de fabrique Jamy Gourmaud. Vous êtes un journaliste zélé qui ne donne pas d'infos sans avoir dûment vérifié ses sources, comme Stéphane hier dans son récit.
Alors, d'après Wikipédia...
Ouais, bah Stéphane en mieux. Vous le dites vous-même, la science est utile, on a besoin de plein de choses, mais la science est indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons au quotidien. Et heureusement qu'il y a des passeurs comme vous, Jamy. Prenez quelqu'un comme Stéphane, par exemple, un garçon bourré de qualité, on est tous d'accord, c'est évident. Mais pourtant, qu'est-ce qui manque cruellement à Stéphane ?
Des neurones.
Non, vous êtes dur, Jamy. Non, vous êtes dur, je dirais plus poliment. Une forme d'esprit scientifique. Heureusement, vous êtes là pour réveiller le scientifique qui sommeille en nous parfois profondément. Vous continuez de nous éclairer désormais sur YouTube. Vous avez votre propre chaîne, des vidéos réalisées chez vous avec la complicité de votre compagne et même de votre chat Nitro. On apprend par exemple d'où vient l'applaudissement, comment les chats font pour voir dans l'obscurité ou encore... pourquoi cette délicieuse odeur qui nous pique le nez aux toilettes après avoir mangé des asperges ?
Ah, j'adore.
Drôle de type de merde. Le succès est fulgurant. Quelques mois seulement après son lancement, vous avez déjà 697 000 abonnés et votre communauté, toutes plateformes confondues, totalise 1,7 million d'abonnés, tout plein de petits gourmands et de petites gourmettes. Je ne sais pas comment il faut appeler vos fans. En parallèle de ces activités numériques, n'oublions pas les livres. L'année dernière, vous étiez venu ici même nous en présenter un. À cette occasion, durant l'interview, vous nous aviez dévoilé une autre qualité indispensable que se doit d'avoir tout scientifique aujourd'hui, savoir noyer le poisson habilement quand on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Est-ce que les poissons ont soif ?
Eh bien oui, les poissons boivent. Hein, ce sont comme nous. Ils vont capter une partie de l'eau par... c'est-à-dire que avec les au niveau de la surface de l'animal, ce qui n'est pas le cas chez le poisson d'eau douce. Parce que là, vous me prenez de court, c'est pas facile.
Bien joué, Jamy. Bagou, essence des affaires. Dernièrement, vous avez créé la marque Épicurieux en collaboration avec Webedia, avec toujours cette approche ludique du savoir. Ça reste cohérent avec votre ligne éditoriale de toujours. J'ai cherché, évidemment, pour vous coincer sur le côté business, mais non, vous n'avez pas développé de site louche pour apprendre à trader en ligne, promettant 3 bitcoins offerts pour toute inscription. Beau succès donc pour le Jamy 2.0, sauf du côté de TikTok. Hein, là, zéro publication. Dommage, parce que quand vous taquiniez la guitare dans C'est pas sorcier, il se passait un truc.
Jésus, Jésus, Jésus revient.
Bref, aujourd'hui, après C'est pas sorcier, après le monde de Jamy, après chez Jamy, les gourmettes s'interrogent sur la prochaine étape de leur idole. Une collection pour la Fashion Week, votre propre vaccin contre le Covid, le Jamix. Eh bien non, c'est un comeback, on en a parlé, un retour à la télé sur France 5 dès ce mois de février avec C'est Jamy, un nouveau magazine ludo-éducatif. Alors cette fois, pas de camion, j'imagine. On passe à l'électrique, c'est quoi le cadre ?
Ah, le cadre, c'est mon atelier, c'est chez moi.
C'est chez vous, en toute simplicité.
C'est le cadre dans lequel j'ai lancé, un peu par hasard, ces vidéos. D'abord sur les réseaux.
C'était au moment du confinement.
Complètement. C'est ma compagne qui a eu cette idée le 16 mars, l'an passé, le 17 mars. Eh bien, j'ai diffusé la première vidéo qui a fait un carton.
On peut le dire.
Voilà. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on a créé cette chaîne YouTube pour rendre les vidéos le plus accessibles. Et puis, ben, cette émission, C'est Jamy, aujourd'hui, est un petit peu...
Le prolongement de chez
voilà,
Jamy.
Ça va se... On a déjà commencé un peu.
Et on est chez Jamy,
peu,
c'est ça voilà. Qui est bien.
C'est Jamy, chez ouais, Jamy. Eh bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure, mon cher Jamy. J'imagine que vous tenez déjà le thème de votre premier numéro.
Le cannabis, enfin.
Oui, alors non, merci Jamy, on n'a plus le temps. Mais c'est vous, un journaliste qui ne cède pas aux sirènes du sensationnalisme pour rester fidèle à sa ligne éditoriale.
Merci beaucoup Mathieu. Merci. Il y a eu beaucoup de vrai.
Beaucoup de vrai.
Beaucoup de vrai.
On était quasiment, on était à quasi 100% de vrai là quand même. Hein. On n'a jamais été aussi
vrai. Quasi. Mais toujours, vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre des bouts de phrases que j'ai dites ailleurs.
Oui. Parfois, je vous les fais prononcer ces phrases, vous ne vous en rendez même pas compte. On est hors antenne et je vous pose certaines questions, j'oriente pour que vous me sortiez une phrase. Vous en rendez pas compte.
Mais en fait, je suis Benoît comme Baptiste, je vous fais entièrement confiance. Je pense pas de la perversité qu'il peut y avoir chez vous.
Oui, malheureusement.
Alors, écoutez, en tout cas, c'était un très bon portrait. Jamy, vous êtes satisfait ?
Oui,
pas de réclamation.
Non,
il a été très gentil.
Tout va très bien.
Il était très gentil, vous êtes le héros de son fils, tout va bien.
Ah oui, ça c'est vrai.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Avant-hier, Stéphane Bern a pris le métro et il a demandé au guichet un billet première classe. On lui a expliqué que ça n'existait plus.
Depuis quelques années. J'ai demandé un ticket en me disant pour aller rue de la Pompe, s'il vous plaît.
Alors, ça, Stéphane, vous l'avez compris, prend peu les transports en commun.
Arrêtez.
Pour tous les
Parisiens.
C'est une
légende, vous voyez.
Mais bien sûr, Stéphane, je plaisante.
Je sais, mais oui,
nous
mais
prenons
à
parfois
force.
Le métro ensemble.
Oui,
hein, et nous allons à Pigalle où nous habitons.
Oui,
et voilà. En tout bien, tout honneur. Le métro, il y a effectivement, il ne se passe plus grand chose à Pigalle. Le métro, émet un bruit particulier, celui du le bip du pass Navigo, David.
Tout à fait. Alors, c'est pas tous les métros, c'est à Paris, disons, comme dans la plupart des grandes villes, quand vous prenez le métro, vous avez le choix entre acheter des tickets ou prendre des tickets à l'unité ou prendre un abonnement. Et quand vous êtes abonné à Paris, on vous donne une carte qui s'appelle le pass Navigo. Je dis tout ça pour, quand même pour tous les gens qui n'habitent pas à Paris. Et quand vous rentrez dans le métro, cette carte, vous l'approchez d'une surface en plastique violet qui est devant un portillon. Et là, des deux choses l'une, soit votre abonnement est valable, auquel cas vous entendez ce bruit.
Le portillon,
le portillon s'ouvre et vous pouvez passer. Soit votre abonnement n'est pas valable, auquel cas vous entendez ce bruit et vous pouvez pas passer. Et bien sûr, il y a des drames qui arrivent. Par exemple, vous croyez que vous avez renouvelé votre abonnement, alors vous présentez votre passe Navigo à toute vitesse et vous jetez sur le portillon, mais là le portillon résiste parce que c'est son travail de résister aux gens comme vous. Et du coup, ça fait super mal. Toi-même, tu sais. Mais peu importe, depuis toujours, moi je me suis dit, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a composé ce son. Quelqu'un, à un moment, a décidé que les sons du pass Navigo, ce serait ça et ça. Eh bien, ça m'a pris un moment, hein, mais cette personne, je l'ai cherchée.
Non.
Et je l'ai trouvée, et bien sûr, je suis allé la voir.
Bonjour, je suis Bernard Delage, et c'est moi qui ai réalisé les sons du pass Navigo.
Bon, je vous dis tout de suite, quand on est un fétichiste de l'histoire cachée des objets du quotidien, avoir un type qui vous dit bonjour, je m'appelle Bernard et c'est moi qui ai fait le ding et le dong du passe Navigo, ça vous met les larmes aux yeux. Alors Bernard Delage, c'est un acousticien et un designer sonore. Et au début des années 2000, quand la RATP s'apprêtait à lancer le passe Navigo, elle a fait appel à Bernard, qui avait déjà une bonne réputation, et elle lui a demandé de trouver des idées pour les sons de validation et de refus du passe. Bernard, il a fait notamment appel à un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle Christian Zanesi. Et ensemble, ils ont proposé plein de versions à la RATP. Et finalement, en 2003, tout le monde s'est accordé sur et sur. Alors d'abord, première question, pourquoi ça? Pourquoi celui-là? Pourquoi le son de la validation et pas autre chose? Et parce que le but de ce son, c'est de dire oui, vous pouvez passer. Or, le... Eh bien, non seulement ça ressemble à oui,
oui,
mais surtout, fondamentalement, il y a du i dedans. Or, il y a une sorte de douceur objective dans le i qui sent bon la validation. Vous voyez? D'ailleurs,
vous
Bernard...
Vous faites des dîners entre vous de psychopathes
après, on aurait pu imaginer aucun son.
Ben si, mais il fallait quand même qu'il y ait un feedback, vous voyez, quand vous passez le truc pour dire que c'est bon. Et d'après Bernard, d'ailleurs, c'est pas un hasard si universellement, quand on parle à un bébé, par exemple, on lui fait tibi tibi tibi.
Ah oui, on fait des i.
On fait pas des... Vous voyez, on fait des trucs comme ça. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la validation et du c'est sympa dans le i. Et même chose, d'ailleurs, à l'inverse pour le son de refus, ça ressemble un peu à un non. À un nom, vous voyez, mais plus généralement, il y a ce son dedans qui est grave et dit ce nom qui est un peu, comme le dit Bernard Delage, la version sonore du videur de boîte de nuit. Vous voyez, ça fait... Voilà, donc non, monsieur, ça va pas être possible ce soir.
T'es
mais
pas
pourquoi
on te souvient
pourquoi
plus
c'est
parce si que je suis...
Pourquoi ouais, c'est... Pourquoi nuit, c'est... Pas vous parler.
Vous voyez, c'est ça, c'est le videur de boîte de nuit qui dit ça va pas être possible ce soir. Mais pourquoi? C'est parce que je suis portugais. Non, voilà. Il y a un peu tout ça dans ce son. Et puis, il y a un truc que tout le monde n'a pas remarqué, c'est qu'il y a un troisième son du pass Navigo à Paris qui est celui-ci. Et ce son, c'est un peu un mélange de oui et de non. Et ça veut dire précisément ça. Ce son, il veut dire, bon, tu peux passer, mais fais gaffe, ton abonnement, il se finit bientôt.
Ah, c'est ça que ça veut dire?
Je vous le remets une fois. Vous voyez, il y a un peu le i, mais un peu le na, na,
fais gaffe,
ok? Vous voyez le santé? Et tout ça, c'est dit juste avec ce son-là. Bon, et Bernard, il s'est pas arrêté là, puisque c'est aussi lui qui a eu l'idée de faire prononcer le nom des stations dans le métro à Paris. Une première fois, un peu comme si c'était une question, et une seconde fois, un peu comme si c'était une réponse, ce qui, à Champs-Élysées Clémenceau, par exemple, donne...
Champs-Élysées Clémenceau.
Et la première dame qui a enregistré le nom des stations parisiennes pour Bernard, c'est une actrice française qui s'appelle Vanda Bénès. Et je l'ai appelée, voilà, cette dame qui s'appelle Vanda Bénès, pour voir comment ça faisait en vrai quand elle prononçait le nom des stations. Alors on s'est vu, on s'est rencontrés dans un parc, on a marché côte à côte, et voici ce qu'elle m'a dit.
Champs-Élysées Clémenceau.
Et d'avoir le nom, cette femme qui dit en vrai ce que vous avez entendu depuis 20 ans dans les stations de métro, c'est encore un moment qui émeut les gens comme moi. Alors Bernard, lui, il a pris sa retraite il y a presque 6 ans maintenant, mais pour l'instant, ses sons sont toujours là dans le métro. Et moi, à chaque fois que je valide mon pass Navigo aujourd'hui, bah, ça me fait plaisir de savoir que celui qui l'a fait, bah, c'est Bernard.
Stéphane Bern est très inquiet. Dans son regard, je lis cette idée. Pourquoi vous ne passerez pas à 2 séances de psy par semaine?
Parce que là, une a déjà été faite ici. Oui. Mais pourquoi pas? Vous savez,
ça me... Là, c'est pourquoi il met un... Alors, je pose, autant quand ça ne fonctionne pas, quand le portillon ne s'ouvre pas, on peut mettre un bon bip comme ça. Mais quand ça marche, on n'a pas besoin de son.
Mais c'est pour accompagner avec sympathie le moment. Vous êtes une bonne personne qui avait payé votre abonnement. Mmh. Allez-y, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour vous aussi, je pense, pour vous renseigner sur le fait que vous pouvez pousser la porte et que vous n'allez pas vous prendre un vent dans la face. D'accord. Comme ça
et
peut arriver à quelques personnes.
Entre vous et Vanda, ça s'est terminé comment? Vous avez fait que marcher manceaux. Dans le parc ou il y a eu un petit peu...
Je lui ai dit Pigalle. Pigalle. Et voilà, on a discuté avec des noms de stations comme ça c'est très très bien.
Il y a quelques années, on disait qu'on avait un ticket, je sais pas.
Ouais, exactement. Vous en avez une avec cette Vanda.
On avait le ticket de métro.
Il nous reste, les amis, à déguster une bonne brioche vendéenne en hommage à notre invité Jamy Gourmaud qui est vendéen. Olivier Pouls arrive avec la recette de la brioche vendéenne.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Si vous nous suivez sur Europe1.fr, vous pouvez le constater, j'ai déjà quelque peu entamé la brioche que m'a offerte Olivier Pouls. Aujourd'hui, la recette de la brioche vendéenne, qui n'a rien à voir avec cette brioche dégueulasse que vous avez achetée la boulangerie.
Elle n'est pas dégueulasse.
En hommage à Jamy Gourmaud, notre invité, qui vient de Vendée. Alors.
Oui, alors l'honnêteté me conduit à reconnaître que ce n'est pas une brioche vendéenne.
Ah, ça non.
Je n'en ai pas trouvé. Est-ce que vous savez, vous qui l'a goûté, qui connaissez bien la brioche vendéenne, est-ce que vous identifiez peut-être l'ingrédient qui pourrait manquer dans cette brioche et qui la transformerait en quelque chose d'un peu plus moelleux, un peu plus onctueux?
Un petit peu de fleur d'oranger, sûrement.
Oui. Mmh.
Et puis, alors, moi, je me souviens, celle que faisait mon papa était un peu plus ferme.
Oui.
Voilà. Alors, peut-être la levure de boulanger, je dirais.
Et probablement aussi la crème fraîche. Car c'est l'un des secrets de la brioche vendéenne, c'est qu'elle contient la crème fraîche. Alors il faut savoir que la brioche vendéenne est une IGP, donc une indication géographique protégée depuis 2011. Donc autant vous dire qu'on ne plaisante pas avec la recette et avec les ingrédients qui la composent.
Et vous avez tendance à plaisanter avec ça.
Oui, et c'est un peu léger d'ailleurs comme plaisanterie. Alors il faut savoir que cette brioche, et vous nous le disiez tout à l'heure, était traditionnellement préparée au moment de Pâques. Pourquoi cette période? D'abord parce que à Pâques, on sortait du carême et que pendant le carême, on n'avait pas consommé les œufs dans les fermes et dans les familles, et donc on avait pas mal d'œufs en stock, et c'était une manière d'utiliser tous ces œufs de confectionner cette brioche, et puis c'était aussi une manière de se retrouver tous à table en famille, de la partager, parce qu'il y a une autre particularité, cette brioche, c'est que quand on la regarde esthétiquement, elle est tressée. C'est-à-dire qu'il faut il faut confectionner trois boudins de brioche qu'on va ensuite tresser les uns avec les autres pour lui donner sa forme particulière.
En fait, la brioche vendéenne, c'est juste la belle brioche. C'est juste l'archétype de la brioche telle qu'on l'imagine, tressée. C'est pas.
Voilà, c'est vrai que alors la brioche vendéenne s'est distinguée de la brioche parisienne, ce que vous avez là. Figurez-vous, en 1949, date est très précise. Suite à une vente caritative de produits de Vendée réalisés à Paris au profit des blessés de guerre. Toute la communauté vendéenne avait fait cette belle vente et ils ont popularisé ainsi dans les rues de la capitale leur fameuse brioche vendéenne et qui a pris donc ce nom reconnu de brioche vendéenne pour les différences qu'elle avait, notamment esthétiques et gustatives, avec la brioche parisienne. Je vous en ai parlé, donc c'est la présence de crème, d'un petit peu de fleurs d'oranger. Certains y rajoutent même une petite goutte de rhum, dit-on.
Et du beurre.
Et beaucoup de beurre. Alors je vais vous donner la recette. C'est un peu long à faire. C'est pas très compliqué, mais c'est long parce que on travaille avec du levain et le levain, ça met du temps à pousser. C'est beaucoup plus lent que la levure chimique notamment. Donc pour 500 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 150 grammes de crème fraîche, il faut y aller quand même. 3 œufs, on va garder un petit jaune pour la dorure aussi. Un peu de lait entier, 10 centilitres, 100 grammes de sucre, la petite touche de fleur d'oranger, la levure fraîche et une petite pincée de sel. Alors ce qu'il faut d'abord faire, c'est préparer le levain. Donc on va mélanger le lait tiède, la farine et la levure et on va laisser reposer ça pendant au moins une heure dans un lieu tempéré de manière à ce que la levure commence à travailler et c'est elle qui va ensuite permettre la pousse de la brioche. On rajoute les autres ingrédients, on pétrit et là on va laisser lever à plusieurs moments. 2 heures pour commencer, on abaisse la pâte, on la replie sur elle-même, on la remet encore posée au minimum 6 ou 7 heures avant de confectionner les boudins, de les tresser, de badigeonner avec le jaune d'œuf et de passer à la cuisson. 40 minutes à 150 degrés, mais au plus de temps vous allez laisser pousser cette brioche, au meilleur elle sort.
Et sinon, vous n'avez pas une petite adresse où on pourrait récupérer cette brioche chez un bon boulanger qui nous ferait gagner un temps précieux ?
Bien sûr, il y en a beaucoup qui le font. Alors, à Paris, je n'ai pas trouvé ce matin, en tout cas, un bon boulanger.
Ça, vous n'avez pas trouvé, je vous le confirme.
Alors, on peut lancer un appel d'ailleurs. Si à Paris, bon boulanger fait de la brioche vendéenne, on est 2 rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement à Paris. Hein.
Exactement. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1. Stéphane Bern aura, comme d'habitude, le dernier mot. Chaque jour, l'origine d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane,
chasser le naturel, il revient au galop.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chasser le naturel. Ah pardon, vous voulez...
Pas du tout comme vous voulez. Vous voulez vous, vous attaquez bille en tête finalement.
Oui, bille en tête.
Bille en tête. Très bien. Non, ce n'est pas l'expression du jour.
Non, l'expression du jour que j'ai choisi de vous expliquer, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Mais au fond, qui est l'auteur de cette maxime éclairante, de ce proverbe qu'on utilise souvent ?
C'est une vraie question. Autant chasser le naturiste, il revient au bungalow, on sait, c'est Franck Dubosc, hein, dans Camping, hein, oui. C'est un de vos films préférés. Mais je ne savais pas que le proverbe chasser le naturel, il revient au galop avait un auteur.
Oui. Dans un premier temps, je m'incline devant vos connaissances en matière de septième art et de vos goûts surtout.
Oui, oui.
Partons pour Venosa dans le sud de l'Italie à la fin du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Quintus Horatius Flaccus, dit Horace, est un poète latin majeur. On lui doit le Carpe Diem tout de même, ainsi que dans son épître 10, la citation « Naturam expelles furca, tamen usque recurret ». Grâce à Google Traduction, on sait maintenant que c'est là. Oui, parce que j'avais un gaffio. Le gaffio étant pour les versions latines qu'on utilisait durant nos jeunes années. Mais je me suis dit que ça allait prendre des plombes. Alors j'ai pensé que Google Traduction serait plus simple. Bon, on sait maintenant ce que cela signifie. Chasse le naturel à coups de fourche, il reviendra en courant. La Fontaine, Boileau vont écrire des vers clairement inspirés de cette maxime, mais rendons à César ce qui appartient à Philippe Néricault des Touches. Je pose la question, qui connaît vraiment cet auteur dramatique de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle ?
Pas moi.
Eh bien, on lui doit dans la pièce Le Glorieux ceci, « Je ne vous dirai pas de changer de caractère, car on n'en change point. Je ne le sais que trop, chassez le naturel, il revient au galop. » Dans la même pièce, il écrit une phrase restée également dans les annales, je cite « La critique est aisée et l'art est difficile ». Et enfin, dans une autre, « Les absents ont toujours tort ». Mais quel auteur ?
Ben oui.
Alors revenons à notre naturel qui revient au galop. En anglais, on dit « A leopard cannot change its spots ». Un léopard ne peut pas changer ses taches. Oui, vous avez des taches qu'il a sur la peau.
Oui, j'ai
sur la fourrure, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais j'ai vu le vide dans votre regard.
Il fait toujours un sous-titre pour moi.
Oui. C'est parce que c'est mieux. Hein, c'est mieux.
Le léopard et les taches, c'est quand même mieux, c'est plus imagé que la nôtre.
Oui, c'est comme une girafe. Aussi,
on aurait pu faire avec la girafe. Oui,
ou le zèbre.
Ou le zèbre, les rayures. Alors, dans ce cas-là.
En Espagne, on dit « Aunque la mona se vista de sea, mona queda ». Traduisez « Même si la guenon s'habille de soi, elle reste une guenon ». On ne peut que confirmer.
Vous pensez à quelqu'un en particulier, Stéphane ? Scientifiquement vôtre. Ah, je crois que c'est fini. Mais c'est Jamy, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. On vous retrouve à partir de lundi, Jamy, et tous les jours, comme nous, du lundi au vendredi. Vous, c'est à 17h. Pour la première, vous savez quel sera le thème ? Pas le cannabis, comme je disais tout à l'heure.
Je vais parler du froid, et puis au cours de cette semaine, on parlera de la Lune, d'où Newton. Voilà.
Très bien, on a hâte de découvrir tout ça. Aujourd'hui, Jamy, on a rendu hommage à ces personnages de l'histoire qui avaient la science infuse, de Isaac Newton à Émilie du Châtelet. En passant par vous, lequel vous a le plus impressionné ? Vous ?
Ah bah, on va dire quand même Newton. Ouais. Newton, c'est quand même...
C'est
quand même quelqu'un, c'est la base. Voilà.
Stéphane, on a appris plein de choses.
Et puis la joie de passer cet après-midi en compagnie de Jamy Gourmand. Voilà, c'est sympa. On vous retrouve lundi donc sur France 5. Mathieu, moi je vous dis à demain.
Eh bien, moi aussi, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.